Aime l'été, 28 juillet 2017. Bonjour, vous l'entendez, ce n'est pas Clotilde Seille qui est là avec vous aujourd'hui, mais bien François Brodeur pour aujourd'hui, pour lundi en fait, puisque Clotilde profite de vacances que nous espérons bien mériter, voilà. Une journée chargée aujourd'hui, 4 entrevues comme d'habitude. D'abord, on parle d'enfants handicapés à Sudbury qui vont enfin pouvoir apprendre à faire du vélo. On parle aussi de santé mentale chez les mineurs, de programmation chez Ami Télé, la programmation d'automne qui sort, et d'un projet de maison adaptée pour les moins de 60 ans handicapés qui ne veulent pas aller en CHSLD. Et dans l'actualité, on a retenu pour vous la présence des autistes dans la littérature jeunesse québécoise, et si on a le temps, un texte de la presse sur des expériences scientifiques qui ne laissent pas de nous inquiéter. Tout ça, ça commence dans quelques instants. Exister en société, c'est aussi exister dans la fiction. La chose n'est pas anodine, puisque l'être humain se caractérise notamment par la représentation qu'il fait de lui-même. Et ça a amené Pierre-Alexandre Bonin du site Les Libraires, c'est le site des libraires indépendants du Québec, à se pencher sur les personnages autistes et déficients intellectuels dans la littérature jeunesse québécoise. Le défi de la différence, c'est le titre de son article. La littérature jeunesse québécoise s'est toujours efforcée de présenter un reflet fidèle du vécu de ses lecteurs. Depuis quelques années, un nouveau pan de la réalité des enfants commence à émerger dans les romans jeunesse, des personnages ayant une forme ou une autre de troubles du développement ou cognitif, du syndrome d'Asperger aux troubles du spectre de l'autisme, en passant par la déficience intellectuelle. On retrouve ainsi en librairie plusieurs romans récents mettant en scène un personnage souffrant de l'un de ces troubles. Mais quelles sont les difficultés pour un auteur souhaitant aborder cette problématique? Et quel est l'impact de ces romans sur le public? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons approché Victoria Grondin, auteur de « Dépourvu », et Jean-François Sénéchal, auteur de « Le boulevard ». En choisissant d'écrire un roman, Victoria Grondin avait comme objectif d'aider la communauté à en apprendre plus sur le sujet de l'autisme. C'est ainsi qu'elle met en scène dans Dépourvu, une société où toute la population souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, sauf Guillaume, qui est « normal », entre guillemets, et qui doit apprendre à s'intégrer dans un monde qui n'a pas été pensé pour lui. Jean-François Sénéchal, quant à lui, a créé dans le boulevard le personnage de Chris, qui est davantage un témoin qui pose sur le monde qui l'entoure un regard teinté par son handicap intellectuel. Pour Victoria Grondin, le défi était double. Chaque personne autiste est affectée par un ou plusieurs symptômes précis, et ce à différents degrés. J'étais incapable d'offrir un seul personnage autiste dans mon roman et porter le monde à croire que toutes les personnes autistes étaient identiques. Le deuxième défi auquel j'ai dû faire face était que je ne suis pas une personne autiste. Je ne voulais pas m'approprier leur perception du monde au risque d'offrir quelque chose d'inauthentique. Pourtant, c'est en tenant compte de ces obstacles qu'elle en est venue à imaginer le monde de Dépourvu. En inversant les rôles, tous sont autistes sauf le personnage principal, je pouvais montrer la beauté et la diversité des formes d'autisme sans pour autant essayer de me les approprier, et par-dessus tout cela, je pouvais montrer en quoi l'autisme peut être tout aussi utile à la société que ce que nous définissons comme étant la norme. De son côté, Jean-François explique que, de par son rapport de dépendance aux autres, Chris devenait un révélateur de rapports humains directs et vrais. Pour l'auteur, il était aussi ainsi important de montrer que ces rapports ne sont pas à sens unique et qu'ils bénéficient autant à Chris qu'à ses proches. Chris donne autant qu'il prend. Il est aussi important pour les autres que les autres le sont pour lui. Cette situation était la base de l'intrigue de Le Boulevard. Le matin de ses 18 ans, Christopher, un jeune homme atteint de déficience intellectuelle, découvre que sa mère est partie. Il va devoir se débrouiller seul en espérant que sa mère revienne. Heureusement pour lui, les habitués du boulevard sont là pour l'épauler. Sénéchal affirme également avoir trouvé en Chris un personnage qui lui permettait de montrer ce que le monde garde d'empathie et de solidarité, même dans des endroits réputés pour leur atomisation sociale et leur pauvreté culturelle. Il ajoute du même souffle que la littérature propose souvent des personnages qui se définissent par leur individualité radicale et leur souveraineté intellectuelle. Chris est exactement le contraire de ce modèle, puisqu'il se définit avant tout par son rapport aux autres. Ainsi, chacun à leur manière, les deux auteurs sont parvenus à présenter le monde du point de vue d'un personnage atteint d'autisme ou qui présente une déficience intellectuelle. Étonnamment, même si la réception des deux romans est différente, les auteurs en tirent des conclusions similaires. Victoria Grondin mentionne qu'on l'aborde presque exclusivement pour parler de l'autisme, notamment par des parents particulièrement rassurés après avoir lu Dépourvu. Ils lisent enfin une histoire qui ressemble à la leur, une histoire qu'ils peuvent partager avec les autres sans hésitation, nous dit l'auteur. La situation diffère un peu du côté de Jean-François Sénéchal, lequel note que ses lecteurs lui parlent davantage du personnage de Chris que de déficience intellectuelle. Ça me fait plaisir parce que les lecteurs semblent avoir mis de côté l'étiquette de déficient intellectuel au profit du personnage lui-même. Les lecteurs semblent avoir été marqués beaucoup par la résilience, la générosité et le courage de Chris, ainsi que par ses limitations intellectuelles. Quoi qu'il en soit, il apparaît évident que les deux romans viennent toucher leurs lecteurs, même s'ils ne le font pas de la même manière. Chose promise, chose due, je vous avais dit que si on avait le temps, on parlerait de cette expérience menée aux États-Unis. C'est Philippe Mercure, en fait, qui en parlait dans la presse, un article qui était intitulé « Embryon génétiquement modifié, première expérience réussie aux États-Unis ». Il y a un scientifique, pas le nom, on va l'appeler Shukrat Mitalipov, c'est son nom, il est d'origine kazakh, je crois, qui a découpé des petits morceaux d'ADN dans un embryon humain pour les remplacer par d'autres morceaux d'ADN. Ça n'est pas une première. Les Chinois avaient revendiqué l'exploit deux ou trois fois. Ce qui est une première, cependant, c'est que son expérience a été rapportée sans publication d'article par le MIT Technology Review, de sorte qu'on n'en connaît pas exactement les résultats. Mais il semblerait que le docteur Mitalipov soit parvenu à contourner ce qui avait bloqué ses collègues chinois, à savoir la parfaite reproduction des gènes qui avaient été modifiés à l'intérieur de l'embryon. Ceci dit, je vous rappelle qu'au Canada, une expérience comme celle-là serait illégale puisqu'il est formellement interdit de manipuler la génétique humaine d'une manière qui pourrait se transmettre aux descendants. Et ça pose toutes sortes de questions éthiques, évidemment, sur l'eugénisme et l'amélioration de l'individu par la science. Tout de suite, on rejoint Nicole Graham, physiothérapeute au Centre Horizon Santé Nord de Sudbury. Madame Graham, bonjour.
Bonjour, François.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Bon, parlez-nous un peu du programme I Can Bike, parce que ça semble révolutionnaire.
Oui, c'est la deuxième année qu'on a la chance de faire venir le programme I Can Bike du groupe I Can Shine qui vient des États-Unis pour aider aux enfants qui ont des handicaps physiques à apprendre à conduire une bicyclette à deux roues de façon indépendante.
Mm-hmm. Qui finance la venue du programme et pour combien?
C'est grâce à une subvention de l'organisme Good Life Kids Foundation qu'on a pu faire venir le programme. Le programme coûte environ 10 000 $. Avec ça, on a un instructeur puis un technicien qui vient dans notre ville avec une trousse de vélo adaptée pour enseigner aux enfants de pouvoir conduire leur bicyclette à deux roues.
En pratique, ça se passe comment?
Pardon?
En pratique, ça se passe comment? On réserve une place?
Au, Au début, oui, on a inscrit 28 participants cette année, 30 l'an dernier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants viennent au programme pour une semaine, 5 jours par semaine, et participent à la même session pour 75 minutes à tous les jours. Mm-hmm. Donc, ils conduisent leur vélo pour 75 minutes. Au début, le vélo, c'est un vélo adapté de la trousse d'équipement. La roue en arrière est remplacée par un type de rouleau de métal qui ressemble à un rouleau à pâte, qui offre une stabilité pour le participant qui se sent confortable de conduire le vélo. Puis au fur et à mesure, l'enfant progresse à travers 8 rouleaux qui sont interchangés. Au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus adepte à conduire, le rouleau devient plus étroit au bout, donc ça développe l'habilité chez le participant de maîtriser l'équilibre sur le vélo.
OK. Ce que j'entends surtout dans ce que vous me dites, c'est que le principal obstacle pour ces enfants-là, c'est la confiance.
C'est la confiance, mais il y a environ 80 % des enfants qui ont l'autisme qui ne réussissent jamais à conduire un vélo à deux roues. Donc, les enfants qui ont, par exemple, le trouble du spectre autisme ou le syndrome Downs, ou même les enfants qui ont des problèmes avec leur équilibre et leur coordination, qui n'ont jamais réussi à apprendre à conduire un vélo, peuvent maintenant, avec les vélos adaptés, conduire le vélo puis éventuellement faire le transfert à conduire leur propre vélo vers la fin de la semaine.
Et on parle d'un taux de réussite de combien? Parce que je devine que tout le monde ne doit pas y parvenir quand même.
Presque tout le monde. La moyenne du programme en général est d'environ 80 %. L'an passé, 79 % de nos participants ont réussi, par la fin de la semaine, de conduire de façon indépendante. Cette année, on a eu un gros taux, un taux de 92 %. Mais ceux qui ne, le 20 % ou le 10 à 20 % qui ne réussissent pas, quand même, ont fait beaucoup de progrès durant la semaine. Et puis, avec les techniques qu'ils ont développées, ils peuvent continuer à travailler avec leur famille, même les volontaires qui sont avec le programme pour finalement réussir à conduire indépendamment.
Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il faut aussi, parce que j'ai tendance à m'inquiéter pour les parents également, je me dis qu'un enfant qui a appris tout d'un coup comme ça à faire du vélo a acquis une nouvelle liberté et que ça ne doit pas toujours être rassurant de savoir que, oups, où est-il passé?
C'est peut-être vrai, mais souvent, ils conduisent dans des endroits sécuritaires comme des pistes cyclables ou des pistes de course, puis avec leur famille et leurs amis. C'est vraiment un loisir qu'ils peuvent développer, qu'ils peuvent participer à une activité récréative souvent qui manque chez ces enfants-là, qui peuvent maintenant participer avec leurs amis, leur famille, puis on voit une amélioration au point de vue de leur capacité cardiovasculaire, mais aussi point de vue estime de soi et confiance. Souvent, on entend les enfants dire « je ne croyais pas que j'étais capable, je suis maintenant capable de faire ça avec mes amis », puis c'est un outil qui est indispensable chez ces enfants-là.
Oui, et on peut penser aussi à la santé, à la socialisation, à tout ce qui va avec le vélo également, ne serait-ce que parce que ça se passe dehors, ce qui est déjà un gros plus.
Oui, on commence toujours à l'intérieur. Habituellement, à l'été, les gymnases dans les écoles sont disponibles. Ça fait qu'on s'est procuré un gymnase, puis on commence à l'intérieur avec les vélos adaptés, puis éventuellement, on fait le transfert dehors, puis ils apprennent à conduire dehors.
Je comprends que ce programme-là, finalement, ce sont des consultants américains, Hike & Bike, qui vous l'ont offert. Qu'est-ce qui empêche, finalement, des programmes équivalents de naître au Canada? Pourquoi il faut faire venir quelqu'un des États-Unis pour nous apprendre à faire du vélo à nos jeunes?
C'est surtout parce qu'ils ont la trousse d'équipement adapté avec les gros rouleaux en métal. C'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. C'est une compagnie qui a développé ça, puis vraiment la technique fonctionne. Il y a eu plusieurs programmes auparavant pour apprendre à conduire un vélo à deux roues chez ces enfants-là, puis ça n'a jamais réussi, mais c'est vraiment une technique, puis la trousse d'équipement qui fait le succès chez ces enfants-là.
Mm-hmm. Et est-ce que c'est un événement que vous espérez à même de rééditer dans les prochaines années?
Oui, on aimerait, mais c'est toujours un sujet à la subvention qu'on peut recevoir ou par différents programmes. Mais c'est la deuxième année, puis on espère encore de continuer à offrir ce programme-là pour que d'autres participants puissent réussir à avoir cette activité-là dans leur vie.
Avant de terminer, Mme Graham, j'aimerais beaucoup que vous me parliez du sourire que faire du vélo peut procurer à un enfant.
Oui, c'est incroyable de voir les enfants durant la semaine, le sourire sur le visage, mais surtout sur le visage de leurs parents aussi. On a eu un parent qui nous a dit que vous avez accompli en 4 jours ce que j'ai essayé de faire pendant 4 ans. Ça fait qu'on voit les familles qui ont de la difficulté à monter à leurs enfants à faire ça, mais que finalement, ils ont du succès. Les parents, les enfants sont tellement contents de pouvoir réussir puis faire une activité que leurs pères font.
Oui, finalement, c'est un petit peu une nouvelle et une meilleure vie. Et ce serait quand même dommage que de bêtes questions financières viennent interrompre le programme dans les années qui viennent. Madame Graham, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une longue vie pour ce programme-là, à souhaiter que des dizaines et des dizaines d'enfants dans les prochaines années puissent en bénéficier.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Costa Rico qui chantait Por esos mares. Ça nous vient d'Espagne, à ce que me dit le metteur en onde de cette émission, Mathieu Tessier, qu'on remercie à l'instant même. Voilà, c'est fait, j'ai plus besoin de le faire, tu peux y aller, Mathieu. On rejoint sans plus attendre Madame Sylvie Lauzon. Madame Lauzon, vous êtes là?
Ben oui, je suis là. Bonjour, François.
Bonjour, Madame Lauzon, ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, alors, difficile de se plaindre aujourd'hui avec le temps qui fait, sauf peut-être à cause de la circulation au centre-ville de Montréal.
Oui, on pourrait presque en Espagne.
Ouais, mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Madame Lauzon, j'ai été surpris d'apprendre que dans tout le Québec, il n'y a qu'un seul hôpital qui s'occupe de soins pédopsychiatriques exclusivement, s'entend celui de Rivière-des-Prairies.
En fait, c'est un hôpital spécialisé. C'est le seul hôpital spécialisé en pédopsychiatrie parce que tous les hôpitaux généraux de la province se sont tenus d'offrir des soins aux enfants en psychiatrie. Et donc, nous ici, c'est qu'on est un hôpital spécialisé là-dedans. On ne fait que de ça. Alors, c'est là où on a ici une richesse extraordinaire.
Et qui dit hôpital dit aussi fondation, œuvre caritative, et dans le cas qui nous occupe, la Fondation des Petits Trésors,
Oui.
Petits Trésors, qui évidemment soutient les activités de l'hôpital. Mais avant de parler de la fondation elle-même, parlez-nous un peu de la santé mentale chez les enfants. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de cerner c'est quoi? Et qu'est-ce
Bien,
qui
en fait, parce qu'il y a quelque chose de très intangible dans la santé mentale. Et je me reporte, là, si on recule en arrière, on retourne dans le temps, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, on s'imaginait pas qu'un enfant pouvait vivre une dépression, qu'un enfant pouvait être anxieux. Donc, ce sont des concepts avec lesquels on est de plus en plus familier, mais ça demeure quand même abstrait. Et la santé mentale, en fait, on peut pas mesurer ça ou diagnostiquer ça avec une prise de sang. C'est plus simple, par exemple, pour certains troubles de santé physique, de voir directement c'est quoi la difficulté. En santé mentale, c'est pas le cas. Et puis, ce que je trouvais bien intéressant là-dedans, en fait, c'est que pour moi, c'est la dernière frontière en matière de santé. C'est-à-dire que si on a beau avoir une santé physique exemplaire, si ça fonctionne pas entre nos deux oreilles, ça ne fonctionnera pas plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à saisir, parce que c'est intangible, parce que on a l'impression que les gens qui en souffrent ont des drôles de comportements, que ce sont souvent des gens qui réagissent de façon exagérée à des situations habituelles. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de mauvaise presse et qu'il y a tant de tabous aussi, parce qu'on a tendance à cacher ça.
Oui, effectivement.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les tabous sont un petit peu moins imposants qu'avant, mais c'est encore quelque chose, surtout quand c'est un enfant, on dirait que les gens ne veulent pas aller sur la place publique, ils veulent moins en parler, c'est moins évident. Et puis, un enfant étant un être en pleine croissance aussi, c'est pas simple d'imposer ça à un enfant que d'en parler publiquement.
Et en termes de diagnostic aussi, ça doit être quand même assez compliqué, puisque chaque enfant est quand même unique et on va pas empêcher un enfant d'avoir de la personnalité juste pour le dire, il faut que tu ressembles à tout le monde tout le temps.
La frontière est difficile parce qu'il y a toutes sortes de symptômes qui se présentent, et ces symptômes-là peuvent être le résultat d'un concours de circonstances, d'une situation dans la vie de l'enfant, dans la vie de la famille, et ça va durer peut-être quelques jours, quelques semaines, mais ça peut arriver que les symptômes qui étaient subtils deviennent tout à coup plus prononcés. Donc, c'est difficile à diagnostiquer, même pour les médecins. Et quand on sait que 50% des maladies mentales commence à apparaître chez les enfants avant l'âge de 14 ans, c'est dire que c'est important d'être à l'affût, de les observer. Il y a de plus en plus aussi de comorbidités, c'est-à-dire que c'est rare qu'un enfant n'a qu'un seul diagnostic ou une seule problématique, il y en a plusieurs, donc qu'est-ce qui est le plus prédominant? Comment est-ce qu'on fait pour soigner ça? Parce que oui, on arrive à diagnostiquer, mais ensuite, il faut soigner. Et là aussi, en fait, tu sais, si on parle encore une fois de la prise de sang, il y a 100, il y a 150 ans, en fait, on n'arrivait pas à savoir ce qu'il y avait dans le sang, donc on n'arrivait pas à trouver des médicaments appropriés pour les maladies qu'on voulait traiter. On en est un petit peu là aussi avec le cerveau aujourd'hui. On sait de plus en plus de choses. On sait qu'il y a des neurotransmetteurs, qu'il y a des substances chimiques, mais l'équilibre de tout ça, on ne le connaît pas encore très bien. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et c'est pour ça que c'est autant difficile à diagnostiquer qu'à soigner. Mais le pire, c'est que c'est le plus difficile à vivre, bien sûr.
Bon, il y a des maladies mentales qui sont évidentes. Là, je pense qu'un jeune qui fait une psychose, c'est aussi évident chez un jeune que chez un adulte.
Et ça arrive, ça arrive parfois très jeune.
Mais c'est quoi les maladies en émergence chez nos jeunes?
Ben, en fait, en émergence, il y a au-delà de 300 diagnostics en santé mentale des enfants. On se doute que c'est pas d'une évidence. Et puis, quand on parle de comorbidité, ça veut dire que des fois, il y a un, deux ou trois ou quatre ou cinq diagnostics ensemble, ce qui vient rendre la situation encore plus complexe. En émergence, là, je dirais, en fait, les troubles du sommeil, c'est pas en émergence, mais les troubles du sommeil chez les enfants qui ont des troubles de santé mentale, ça les touche dans 80 % des cas. Si on parle d'un enfant là, qui... Un enfant... j'utilise le mot normal, là, mais ne vous en formalisez pas. Pour moi, ça n'a pas une grande valeur. Là. C'est un enfant qui n'a pas de difficulté, disons. Chez ces enfants-là, il y en a 25 à 30 % qui vont mal dormir. Quand il y a un trouble de santé mentale associé, ça va jusqu'à 80 %. C'est donc dire que tout ce qui s'appelle effort thérapeutique, tout ce qui s'appelle même à la limite médication, va avoir beaucoup moins d'effet chez un enfant qui a cette problématique-là associée à la santé mentale. Ça, on en parle de plus en plus et on veut de plus en plus faire du sommeil chez l'enfant qui a un trouble de santé mentale un élément important dans le diagnostic, dans les rencontres avec les médecins, donc pour les diagnostics. Il y a beaucoup de... La dépression, en fait, il y en avait toujours. Il faut penser que 10 % des enfants de moins de 10 ans ont déjà eu des idées suicidaires. Ça vous donne une idée de l'importance de la chose. Les troubles anxieux, là, on ne parle pas d'une simple anxiété de performance, mais les troubles anxieux touchent quand même 25 % des enfants. C'est énorme et c'est probablement la problématique dont on parle le plus actuellement, celle qui a le plus d'impact. Et c'est une des rares problématiques en santé mentale des enfants qui touche plus de filles que de garçons. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est un petit peu là où on en est, mais je te dirais que la grande nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant de diagnostics associés. C'est-à-dire qu'on est en autisme aussi. L'autisme fait partie de cette famille de troubles que sont les troubles de la santé mentale. Alors, tu peux avoir un autiste qui a un déficit de l'attention, qui a des troubles anxieux. Tu peux avoir un jeune qui a un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est peut-être psychotique, qui lui aussi est anxieux, qui a des troubles de sommeil, qui a des troubles de l'alimentation. Alors, c'est difficile de voir quand ça devient une maladie, parce que la frontière est difficile à saisir entre un symptôme passager et un symptôme qui devient plus permanent. Et c'est aussi difficile de saisir les frontières entre tous ces troubles-là qui ont un tronc commun important. Et puis moi, je dirais de mon expérience personnelle de mère, plus que d'autres choses, que souvent, le tronc commun de tous ces troubles-là, c'est des difficultés de communication. Ça passe beaucoup par là. Et c'est au cœur de ça, bien sûr, la gestion des émotions, qui est presque... En fait, ça n'est pas inné chez ces jeunes-là, d'apprendre à gérer, à progresser avec leurs émotions.
En pratique, le parent commence à s'inquiéter quand? Quand son enfant dort mal, quand son enfant répond plus, parce que ça, c'est l'adolescence, là, on va s'entendre, ou Justin Bieber, un des deux.
Qui n'est pas une maladie, soit dit en passant.
Non, je sais, mais bon...
Ben, en fait, il faut apprendre à observer nos enfants parce que grandir, c'est s'adapter. Et d'ailleurs, un autre des troncs communs, une autre des choses que ces enfants-là ont en commun, c'est une capacité d'adaptation qui est bien faible. Donc oui, mal dormir, mais pas tout seul. Faut observer les changements. Par exemple, un enfant qui aimait beaucoup, moi je sais pas, prendre son cours de danse, qui tout à coup n'a plus envie du tout de s'y rendre. Ça peut être un symptôme. Un enfant qui dort plus, donc, ou qui dort trop, ou qui dort moins, un enfant qui mange moins ou qui mange trop, un enfant qui évite les rencontres avec ses amis qu'il fréquentait puis qu'il aimait beaucoup et qui tout à coup commence à s'isoler, un enfant qui s'inquiète tout le temps aussi, qui vous fait part de ses peurs d'à peu près tout ce qui l'entoure et qui a de la difficulté à bouger autour de ça, quand il y a un ou plusieurs de ces situations-là qui se présentent dans la vie de l'enfant, je considère qu'il faut commencer là, à ce moment-là à se poser des questions et peut-être à aller consulter. Parce que tout de même, on parle d'un enfant sur cinq là, qui est atteint, qui
Il
souffre,
nous
en
reste
fait, qui vit
à peine
avec
quelques
ça,
secondes. Alors, je ne voudrais pas terminer sans qu'on nous dise la fondation, elle est où? On la contacte comment et qu'est-ce qu'on peut faire?
Le plus facile, www.petittrésor.ca. On est sous le boulevard Perra, associé dans les mêmes locaux que l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et ça va nous faire un plaisir de vous répondre et peut-être même de vous guider là, vers des pistes.
Merci, Mme Lauzon. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait. On se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue. Au revoir.
Merci. Bonne journée.
Aime l'été. Avec vous encore pour la prochaine demi-heure, François Brodeur, mais je ne suis pas seul puisque j'ai en ligne Isabella Federici, qui est vice-présidente à la programmation et à la production chez Ami Télé. Madame Federici, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonjour, vous allez bien?
Très, très bien, merci.
Bon, Ami Télé et Canal M, disons-le, sont faits pour marcher main dans la main. Ami Télé faisant en télévision, finalement, ce que Canal M fait, elle, en radio. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à la télévision par câble, vous y avez accès. Selon un... Et ça, c'est d'ailleurs assez fâcheux. Là. Chaque fournisseur de câble vous fournit une chaîne qui est séparée. Il faut aller sur le site pour vérifier laquelle. Madame Federici, on vous contacte aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre programmation d'automne. Qu'est-ce qui se trame chez vous?
Écoutez, je pense qu'on a un beau produit à offrir à nouveau à nos usagers. On continue naturellement avec Ça me regarde, le magazine que l'on produit chez nous, chez Ami Télé, un magazine de service animé par Christine Rousseau, Kevin Breton. Mm-hmm. Et cette année, on va faire une alternance entre Kevin et Jessie Archambault, que les mm-hmm. gens connaissent bien déjà. Et on fait un petit changement d'horaire. Les gens sont habitués de voir Ça me regarde le samedi. Midi, on va te déplacer à samedi 15h, mais avec toujours autant de reprises dans la semaine, donc c'est impossible de manquer l'émission.
Je profite de l'occasion pour dire que Kevin lui-même va revenir au micro de Canal M incessamment pour une émission. Voilà, je l'ai divulgué, ça y est, j'ai une grande langue.
Il n'y a rien comme la promotion croisée.
N'est-ce pas?
mais Kevin est un jeune homme très talentueux qu'on aime beaucoup et qui est aimé par la population en général. Donc, on continue aussi avec une nouveauté, un magazine de sport. Un mensuel qui va commencer le dimanche 10 septembre, qui va être diffusé à midi. Mm-hmm. Et donc, sur une base mensuelle, ça va être animé par Luc Fortin, que vos auditeurs connaissent aussi très bien.
Oui, Luc qui est un grand passionné de sport, Luc, d'aussi loin que je m'en rappelle.
Oui, donc c'est une combinaison parfaite. Mm-hmm. Et donc, on va couvrir le sport amateur para, quelque chose qui n'est pas normalement couvert par les médias traditionnels, disons-le. On va faire des démonstrations, on va parler avec des athlètes, naturellement, et on va couvrir des compétitions. Et aussi, comme c'est une année paralympique avec la Corée à l'hiver, donc on va aussi faire des liens sur les Jeux paralympiques. Ensuite, un peu plus tard, en saison en novembre, Pas de panique, on te cuisine revient pour une deuxième saison. 10 épisodes avec toujours Bob le chef et Véronique Vézina, toujours avec des nouveaux trucs, des recettes faciles. Et on est très contents de ce succès-là, de cette première saison qui a été diffusée au printemps. Les gens ont bien répondu et je pense que la deuxième saison va être encore meilleure.
Mm-hmm. Dans tous les sens du mot, d'ailleurs.
Et janvier, un nouveau magazine aussi, un magazine de science qui va parler de la science, tout ce qui a rapport avec les maladies de l'œil, les découvertes, les recherches qui se font. Et on est chanceux à Montréal, on a un bassin de chercheurs experts très intéressant. Donc, on va en profiter, on va plonger dans ce bassin-là et essayer d'amener des pistes de solutions pour les gens qui vivent en situation de handicap visuel.
Oui, parce que souvent, il faut faire une mise à jour dans ce domaine-là. La science progresse énormément. Et il y a des choses qu'on croyait impossibles il y a 25 ans qui sont maintenant très possibles. Donc, prendre cette situation pour acquis, ça risque d'être finalement une grave erreur.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de développement et je pense que ça se fait de plus en plus rapidement. C'est sûr que il y a aussi la technologie qui est importante. Les gens ont vit de plus en plus avec la technologie et c'est très, très pratique aussi pour quand on vit avec un handicap. Donc, par contre, la technologie, on va continuer à l'adresser plutôt dans Ça me regarde parce mm-hmm. que c'est vu que c'est une durée de vie assez courte, la technologie, ça bouge tellement mm-hmm. rapidement. Donc, on préférait faire un magazine sur la science tel, donc qui est plus sur le long terme. Et Yves et Max sur la route reviennent au printemps. Ils vont explorer cette fois-ci l'est du Québec, les Maritimes. Et on a une nouvelle série aussi pour l'été, mais ça, on s'en reparlera plus tard. Il n'y a pas d'urgence pour ça.
Je voyais donc, aussi dans mes notes qu'il y a un bye-bye à Ami Télé. Là, j'ai honte de ne pas l'avoir su avant et encore plus de ne pas l'avoir vu.
Ben, écoutez, ça a été le grand défi. Ça va être pour la troisième année qu'on va présenter le bye-bye avec la vidéo description parce que, bon, Radio-Canada, le bye-bye, on le sait depuis plus de 40 ans. Mais ça n'a jamais été présenté avec la vidéo description. C'est un gros défi technique d'arriver à faire ça. Bon, même si l'émission n'est plus vraiment en direct, comme ça l'a déjà été il y a plusieurs années, c'est un défi technique et au niveau de la production là, avec la vidéo description, parce qu'on reçoit le contenu à quelques heures de 23 heures le 31 décembre. Donc, on passe le 31 à préparer ça, à faire la vidéo description et enregistrer et tout préparer, tout ça.
Et disons-le franchement, traduire de l'humour qui est souvent visuel en plus de respecter le texte, ça doit pas être simple.
C'est C'est, il faut vraiment faire attention, justement, parce que quand c'est très visuel, c'est toujours de bien savoir bien doser. Mais les deux années, on a fait en 2015, on a fait en 2016, c'était très bien reçu. Les gens étaient contents d'avoir accès à cette émission-là qui est si populaire, enfin avec la vidéo description. Et donc, on renouvelle l'entente avec les producteurs et avec Radio-Canada pour pouvoir le présenter aussi. Et c'est souvent, on fait la diffusion à 23 heures et la reprise le lendemain, le surlendemain aussi.
Ah, et les acquisitions, on a beaucoup parlé de vos productions, mais les émissions que vous avez acquises pour cet automne, ça va ressembler à quoi?
On continue. On avait déjà présenté les Experts Manhattan les six premières saisons. Donc, on continue la série avec les trois dernières saisons qui vont revenir du lundi au vendredi. On a l'Auberge du Chien Noir qui avait été très appréciée chez nous avec la vidéo description et on a acquéri les dernières saisons. Donc, on va présenter ça aussi à compter de septembre. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont être contents de savoir ça. Et il y a la série Fortier qui a été très appréciée, qui commence cet été, mais qui va se continuer pendant l'automne. Et les Beaux Malaises, saison 3 et 4, donc on termine le cycle des Beaux Malaises, toujours des primeurs de vidéo-description. Et je suis très contente aussi, on a acquéri la trilogie de Serge Boucher, donc avec Aveu, Apparence et Feu. Donc ça commence à compter de novembre.
Oui, dans un monde idéal, on arriverait à les diffuser à peu près en même temps qu'en diffusion régulière, mais on comprend que c'est impossible. Les défis pour Ami TV, c'est quoi actuellement?
On est en période de renouvellement de licence. Comme n'importe quel diffuseur, on a une licence qui est accordée par le CRTC sur une durée de 5 ans, donc qui est échue au 31 août 2018. Et donc, on vient, il y a tout un processus qui est assez long que les diffuseurs doivent faire, préparer un dossier qui se tient pour montrer qu'on peut vivre et continuer aussi à offrir un service exceptionnel parce que Ami Télé est à distribution obligatoire. Donc, on est sur le cadre de base distribué à travers le pays parce qu'on offre un service exceptionnel. Mm-hmm. C'est le mandat de distribution obligatoire est lié à ça.
Et il faut dire aussi que votre financement, comme celui de Canal M, d'ailleurs, dérive aussi de cette diffusion obligatoire-là.
Oui, en fait, on reçoit nos revenus proviennent uniquement des redevances des câbleaux que l'on reçoit par justement la distribution. Donc, il faut, avec les quelques sous que l'on reçoit, il faut réussir à faire un budget puis à planifier responsablement de façon à continuer à offrir un contenu qui va être intéressant. Donc, nous, on met beaucoup d'énergie sur ça présentement. On va aller en consultation publique aussi. Les gens vont être invités à écrire au CRTC comme pour Canal M pour donner des commentaires positifs, espérons.
Oui, bien sûr, parce que il faut dire ici que pour la plupart des câbleaux distributeurs, faire diminuer le prix de la facture pour l'usager, c'est important. Donc, éliminer ces services-là pour un câbleau distributeur, ça pourrait apparaître comme un acquis. D'ailleurs, les câbleaux s'opposent régulièrement au renouvellement de licence. Alors, on peut soutenir ici que c'est important pour l'auditoire, le nôtre comme le vôtre, de se signaler auprès du CRTC.
Oui, tout à fait. On n'a pas vraiment d'inquiétude. Je pense qu'on fait vraiment attention. On écoute notre auditoire. On a des panels de recherche. On fait des groupes de discussion. Puis ça, c'est très important, ce panel-là, des gens qui participent à nos groupes de discussion proviennent de la communauté, puis on les écoute, puis on leur pose des questions des fois plus vagues, mais souvent pointues sur leurs habitudes, sur ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Donc, c'est comme ça qu'on s'ajuste. Parce qu'on a beau être des professionnels des médias, il faut quand même aussi écouter la communauté qu'on défère.
Madame Federici, je dois vous interrompre parce qu'encore une fois, je me suis fait coincer par l'horloge et par mon technicien qui me regarde avec des yeux méchants. Je vous remercie de nous avoir communiqué votre grille. Ça sera à voir comme on sera nous à écouter, bien sûr. Je suis convaincu qu'on aura l'occasion de se reparler sous peu.
Avec plaisir. Je vous remercie. Bonne fin d'été.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Pièce intitulée Big Apple Boogaloo, choisie par Mathieu Tessier, qui assure la mise en onde de cette émission. On vit à une époque où notre système de santé se rationalise, devient plus efficace, une époque où le ministre mange du coq au vin pour nous dire que tout le monde dans les CHSLD va en manger sous peu. Il semblerait que ce soit pas toujours le cas, ou en tout cas pas encore. Et ceci dit, est-ce qu'un CHSLD est un bon endroit si vous êtes lourdement handicapé, mais que vous n'êtes pas encore quelqu'un de relativement âgé? Bien, pour nous en parler, on a Danny Martel qui nourrit un projet, semble-t-il. Monsieur Martel, bonjour.
Oui, bonjour.
Parlez-moi de votre projet.
Bien, on veut aider à sortir les jeunes handicapés lourds des CHSLD, mais même ceux qui sont à domicile aussi, puis qui ont besoin de soins à domicile, puis que c'est pas toujours évident. Moi, mm-hmm. moi le premier, c'est mon cas. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut essayer de faire. Là.
Dans quelle région, c'est?
Dans la Shawinigan.
Dans la région de Shawinigan. Votre fondation s'appelle Le Pont vers l'autonomie. Je comprends aussi que ce que vous visez, c'est à permettre aux gens de vivre de plus en plus dans leur résidence plutôt qu'en institution.
Oui, bien, la fondation, c'est pour les bras robotisés, c'est pour le projet de la maison.
Mm-hmm. C'est ça. Pouvez-vous me parler de votre histoire personnelle?
Moi, j'ai eu un accident d'auto en 84, puis depuis ce temps-là, je suis quadriplégique. J'ai aucun membre qui bouge.
Mm-hmm.
Puis depuis ce temps-là que je m'arrange avec mes soins, des chambres qui m'ont aidé, puis des préposés à domicile, mais c'est pas toujours évident parce que ça arrive souvent que la fille t'appelle le matin et que je peux pas rentrer le matin. Fait que là, tu te retrouves pogné. Là.
Mm-hmm. C'est
pour ça que...
Je comprends de mes notes que vous avez vous-même vécu quand même assez longtemps en CHSLD.
Oui, j'ai vécu 7 ans en CHSLD et ça me tente pas de retourner là. C'est pour ça que,
mm-hmm.
pour ça que je veux foncer à faire quelque chose pour ça. Là.
De quel âge à quel âge, si sans vouloir être indiscret?
J'étais en CHSLD?
Oui.
À partir de 15 ans à 70 ans.
De 15 à 22 ans, donc on parle d'une fin d'adolescence en CHSLD.
Oui.
Parlez-nous un peu de cette expérience-là, parce qu'on s'imagine mal que des personnes, effectivement, qui ne sont pas âgées, vivent parfois en CHSLD.
Ben, c'est parce que c'est toujours évident, c'est toujours des personnes âgées autour de toi, puis recommencer à prolonger où j'étais les dernières années, mais... Des personnes âgées autour de toi, ils sont pas tout à fait là bien souvent. T'as pas d'amis là, sur le département à ce côté.
Mm-hmm. Donc,
c'est pas évident à vivre.
Solitude, ça doit être aussi relativement déprimant, je devine.
Oh oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas facile.
Mm-hmm. Et après ça, vous êtes allé quoi, en réadaptation?
Non, j'étais en réadaptation avant que ça soit prolongé.
OK.
Et après, j'ai décidé de partir en appartement. J'étais un des premiers quadriplégiques comme moi à partir en appartement dans la région.
Mm-hmm. Avec quel...
toujours avec des soins de mes amis qui m'ont aidé. Puis,
Moi, parce qu'ici, évidemment, pour un quadriplégique, on parle d'absolument tout, là, se préparer de la nourriture, s'approvisionner, les soins d'hygiène également.
C'est ça.
Qu'est-ce qui motive votre engagement dans la Fondation du Pont vers l'autonomie?
Ben, c'est pour aider. La Fondation, c'est pour les bras robotisés, c'est pas pour la maison qu'on veut partir.
OK.
C'est pas la même chose.
OK, on va le traiter séparément dans ce cas-là.
Oui.
Votre projet de maison actuellement, qui mobilise, je le comprends, beaucoup d'énergie, vous êtes en campagne de financement?
Non, pas encore. On est au début du projet. On est en train de monter notre dossier. On a une réunion de fait du comité que j'ai monté.
Mm-hmm.
Puis à partir du mois de septembre, là, on devrait être capable de monter notre dossier pour pouvoir apporter un projet... où il faut falloir l'apporter au gouvernement ou aux soins de santé, puis des partenaires financiers, ça va nous prendre aussi pour ça, ce projet-là. Là.
Mm-hmm. Et il existe dans la région de Shawinigan suffisamment de demandes pour justifier ce projet-là?
Oui, des demandes pour les jeunes qui sont en CHSLD, tu veux dire?
Non, de jeunes pour aller dans une maison comme celle que vous projetez de construire.
Oui, en CHSLD, il y a au moins 18 jeunes en bas de 45 ans. Bien, notre maison, on va avoir des jeunes en bas de 65 ans. Il y a des demandes en masse pour bâtir une maison.
Mm-hmm. Oui, et se recréer finalement un milieu de vie beaucoup plus positif.
Oui, puis c'est pour aussi apporter des personnels. C'est des personnels qui vont travailler là-dedans, qui n'ont pas d'affaires à sortir d'une maison à l'autre pour donner leurs soins.
Mm-hmm.
Tout le monde va te rassembler à la même place. Parce qu'il y en a des soins à domicile, mais les préposés, il faut qu'ils se promènent en auto même l'hiver, tu sais, d'une maison à l'autre pour donner leurs soins.
Je voyais récemment, et ça nous attristait beaucoup, que dans la région du lac Saint-Jean, une maison comme celle que vous projetez d'établir a été fermée par manque de financement. Est-ce qu'il existe beaucoup de ressources comme celle que vous projetez de construire?
Oui, mais ils ne la fermeront pas au lac Saint-Jean. J'ai communiqué avec eux autres, puis ils ont un sursis jusqu'au mois de septembre, puis probablement ça va virer en logement après modique.
Mm-hmm.
Enfin, ils ne fermeront pas probablement.
Et on a suffisamment parlé d'eux dans les médias pour que ça devienne impossible.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut en parler nous autres aussi pour notre maison, pour que le projet se réalise.
Mm-hmm. Et bon, il n'y a pas de place, vous me le disiez, pour les personnes lourdement handicapées de moins de 65 ans.
Non, à part en CHSLD.
Mm-hmm.
Il y en a des maisons qui existent, mais tu peux pas aller habiter là si tu as 45 heures de service, besoin de 45 heures de service semaine, tu peux pas aller habiter là, parce que j'ai déjà habité là dans le temps.
Mm-hmm.
Une maison semblable à ça, c'est des appartements, puis j'ai parti de là, puis j'ai refait une demande pour retourner habiter là, puis les critères ont changé dans Baptiste, tu peux plus aller habiter là en haut de 45 heures semaine.
Mm-hmm. Je comprends que vous n'êtes pas tout seul sur ce projet-là. Il y a d'autres personnes avec vous dans un comité?
Oui, j'ai un bon comité. Tu te nommes tout le comité?
Bien, s'il n'y a pas trop de monde, on peut y aller?
Ben oui, j'ai José Haut d'Handicap Soleil, un organisme éducatif. Moi, je suis président en plus d'Handicap Soleil.
Mm-hmm.
Samuel Florambeau, chemin de la Fondation de la Pombe d'Autonomie. Steve Leblanc du regroupement Mauricie pour les personnes handicapées, puis Lucie Debon de la ville de Shawinigan,
mm-hmm.
Louise Vallière de la paralysie cérébrale, François Dubois Baye Mauricie,
mm-hmm.
Hélène Langevin puis moi.
OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre projet?
Bien, c'est d'en parler le plus possible, j'imagine. Pour tout de suite, on n'a pas notre dossier de montée, puis... S'il y en a qui écoutent, puis qui entendent, puis qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec moi, il n'y a pas de trouble. Moi, je prends tout ce qui passe, puis s'il y en a qui sont intéressés à financer n'importe quoi,
mm-hmm.
on prend tout. Donner des idées, nous envoyer des T'sais, qu'on peut monter le projet le plus vite possible.
Il nous reste à peu près une minute. Je voudrais pas fermer cette entrevue-là sans qu'on ait parlé de la Fondation Le Pont vers l'autonomie.
Oui.
Alors, la Fondation, vous me le dites, vise à ramasser des fonds pour fournir des appareils robotisés?
Oui, c'est des bras robotisés, j'ai encore qu'à perdre. Mm-hmm. Oui, j'ai eu le mien, ça fait un an et demi à peu près.
Et ça change une vie complètement?
Oh, oui, ben oui, je suis en train de boire mon verre d'eau en même temps que je te parle. Hein.
OK.
Je bois mon café tout seul, je vois l'épicerie, je fais mes affaires. Puis ça fait deux spectacles bénéfices que je fais pour ramasser des fonds. Le premier, c'était pour le mien. Puis au mois d'avril passé, j'ai fait un autre spectacle bénéfice pour aider quelqu'un d'autre, pour donner des fonds pour la fondation, pour les autres.
Oui, parce que ça peut coûter combien?
Au printemps prochain, on en fera un autre aussi.
Ça peut coûter combien, un bras robotisé?
Ça coûte 50 000. C'est garanti à vie. C'est un prêt à vie de la fondation.
OK. Et est-ce que Québec en finance une partie ou c'est vraiment,
non.
C'est tout est au privé?
Oui.
OK. Ben, écoutez, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir parlé, bien sûr, et à vous souhaiter bonne chance dans ce projet de maison et dans les projets de votre fondation aussi. En espérant qu'on aura l'occasion de se reparler sous peu pour voir, je ne sais pas moi, que le projet a été accepté ou que la première pelletée de terre a été soulevée.
Ça serait bien le fun le plus vite possible.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Reste quelques instants pour aborder brièvement certains sujets. D'abord, Serge Beauchemin. Serge Beauchemin, vous le connaissez, c'est un des dragons de Radio-Canada. Il a lancé une campagne, en fait, pour ramasser des fonds pour Julien Racicot. Qu'est-ce qu'il va faire, Julien Racicot? Bien, Julien Racicot, c'est un quadraplégique qui traversera en fauteuil roulant la distance entre Gaspé et Montréal en 30 jours. C'est quand même un truc colossal, 1200 kilomètres, pour ramasser des fonds pour sa fondation. C'est la fondation Adapte-toi, toi, T-O-I-T, qui offre un aménagement accessible et adapté pour les personnes souffrant de lésions à la moelle épinière dans leur logement. Alors, si vous voulez soutenir cet effort-là ou suivre ce que fait la fondation, rendez-vous sur leur site Internet. Une conférence gratuite pour les prochains dans sur développer la confiance et l'estime de soi, c'est présenté par Annette Archambault, formatrice et conférencière. La confiance et l'estime de soi sont un aspect important pour un bon équilibre de vie et le maintien de la santé psychologique. Cette conférence gratuite pour les proches aidants aborde divers aspects du développement de la confiance et de l'estime de soi. La définition des concepts, les facteurs qui contribuent à l'augmentation ou à la diminution de ces facteurs de l'estime de soi, oui, et l'entraînement. Alors, si vous voulez assister à ces conférences, ce sera le jeudi 3 août de 13h30 à 15h30 à la Maison du Brasseur au 2001 boulevard Saint-Joseph à Lachine et le mercredi 9 août de 11h30 à 11h30 au local 208 au 85 64 boulevard Newman à La Salle. On vous demande de vous inscrire au préalable au 514-564-3061. L'INCA a un nouveau groupe de soutien pour futurs ou nouveaux parents ayant une limitation visuelle. Alors, si vous vous lancez sous peu dans l'aventure parentale et que vous souffrez d'une déficience visuelle, sachez que l'INCA a un programme qui vous permettra éventuellement de vous préparer à cette étape importante de votre vie. Vous pouvez vous y inscrire en les contactant au 1-800-465-4622. Voilà, vous écoutez l'indicatif qui nous signale que c'est déjà tout pour cette émission. Il me reste à remercier Clotilde et Sylvie Rivard à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde, à vous donner rendez-vous aussi lundi prochain pour ma dernière contribution à cette émission à Aime l'été. Merci, au revoir.